Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, nous replongeons en juillet 1945. Imaginez la scène. Joseph Staline est à la conférence de Potsdam et franchement, il n'en croit pas ses yeux.
Ah, ça c'est sûr. Je veux dire, l'homme qui vient de sauver l'Europe de la tyrannie, Winston Churchill, vient tout juste d'être viré par son propre peuple.
C'est ça, sans un seul coup de feu, juste avec de simples bulletins de vote. Et en face de lui, Clement Attlee et les travaillistes raclent absolument la mise. On parle de 47,7% des voix et 393 sièges contre à peine 197 pour les conservateurs.
C'est un véritable séisme. Churchill gagne la guerre, mais en fait, il perd l'élection en un clin d'œil. Et ce, après 3 semaines d'une attente vraiment interminable pour le dépouillement.
Les Britanniques cherchaient vraiment en ce 26 juillet. Est-ce qu'ils voulaient le nouveau monde planifié par Attlee ou bien est-ce qu'ils fuyaient l'ancien monde de Churchill?
Le cœur du problème est là.
Voilà. De mon côté, je suis convaincue qu'il s'agit d'un véritable plébiscite pour un changement de système. Une adhésion très profonde à la reconstruction de l'État qui était portée par le Labour.
Eh bien, pour ma part, je suis persuadé que c'est avant tout un rejet viscéral. Un vote sanction vraiment historique contre la misère des années 1930. Bien plus qu'une soudaine conversion idéologique au socialisme, en fait.
Mais regardons ce sur quoi les électeurs se sont prononcés concrètement. Je veux dire la feuille de route du rapport Beveridge.
Oui, le fameux rapport.
Exactement. Ce n'était pas juste un concept abstrait, vous voyez. C'était la promesse de vaincre la pauvreté avec la même rigueur organisationnelle qui venait de vaincre l'Axe.
C'est une belle promesse, mais...
Attendez, on parle vraiment d'une protection du berceau à la tombe. La création d'un service national de santé gratuit, la nationalisation du rail, des mines. Les Britanniques ont consciemment voté pour, disons, appliquer cette logistique de guerre au bien-être social.
Je comprends l'attrait de cette idée, bien sûr. Mais mettez-vous à la place des électeurs de l'époque. Et surtout, mettez-vous à la place des soldats.
Ah, les soldats, oui.
Bah oui, c'est justement pour intégrer les votes de millions d'hommes en uniforme qui étaient stationnés de l'Afrique à l'Asie qu'on a dû attendre 3 semaines pour les résultats. Ces hommes-là, ils ne votaient pas pour une utopie administrative.
Pas seulement, c'est vrai, mais...
Ils refusaient catégoriquement de rentrer dans l'Angleterre cabossée qu'ils avaient quittée. Je veux dire, le chômage de masse, la pauvreté des années 30, l'apaisement diplomatique face à Hitler, c'est à tout ça qu'ils disaient non. Churchill restait le héros du Blitz, certes, mais son parti incarnait un passé terrifiant pour la classe ouvrière.
C'est un point fort. Mais réduire ça à une simple peur du passé, c'est ignorer l'impact mental de ce qu'il venait de vivre sur le front intérieur.
Comment ça?
Eh bien, pendant 5 ans, l'État n'a pas fait que combattre. Il a en fait planifié la production, distribué les rations, organisé le travail des femmes.
Oui, une économie très dirigée.
Voilà. Les électeurs ont vu de leurs propres yeux une machine bureaucratique redoutablement efficace. La mécanique derrière ce vote, elle est simple. Si cet État peut organiser un effort de guerre total, il peut sûrement construire des logements et des hôpitaux en temps de paix. C'est vraiment une adhésion par l'expérience, par la pratique.
L'expérience de l'État, oui, d'accord, mais regardez l'erreur fatale de Churchill en pleine campagne.
La fameuse allocution.
Absolument. En juin, à la radio, il ose affirmer qu'un futur gouvernement travailliste devrait s'appuyer sur, je cite, « une forme de gestapo ».
Oh là là, oui.
C'est d'une déconnexion totale de la réalité. Il attaque des hommes qui siégeaient avec lui à peine quelques semaines plus tôt dans son propre cabinet de guerre.
Oui, c'était d'une maladresse...
C'est plus que ça. Ça a instantanément révélé la méfiance envers le jugement politique des conservateurs.
C'est vrai que la phrase sur la gestapo, c'était un suicide politique stupéfiant. Et je vous l'accorde, ça a profondément choqué.
Tout à fait.
Mais paradoxalement, ça s'est retourné contre lui. Non pas seulement par indignation morale. C'est parce que la réponse très calme d'Attlee a rappelé aux électeurs qui tenaient vraiment la boutique pendant la guerre.
C'est-à-dire le front intérieur.
Exactement. Attlee, Ernest Bevin, ces travaillistes géraient le quotidien, l'industrie, le travail, pendant que Churchill, lui, s'occupait de la grande stratégie militaire. Les électeurs ont récompensé cette compétence prouvée. Ils n'ont pas juste puni une phrase malheureuse.
C'est juste, mais nous touchons là en fait au cœur du paradoxe de ce 26 juillet. C'est la collision parfaite entre la gratitude pour le chef de guerre et l'instinct de survie d'un pays qui est financièrement exsangue.
Un pays dont l'Empire vacille, oui.
Voilà, le héros est sincèrement remercié pour ses services militaires, mais on lui retire les clés de la maison. Pourquoi? Parce qu'il n'a manifestement pas les bons plans pour la reconstruire.
Ce qui nous ramène à la sidération de Staline à Potsdam dont on parlait au début. C'est peut-être la leçon la plus puissante de cette élection.
la mécanique démocratique.
Dans toute sa froideur, oui, et sa grandeur. Le jour même des résultats, Churchill quitte le 10 Downing Street et Ackley forme son gouvernement dans la foulée. Pas d'émeutes, pas de crise institutionnelle.
Et en quelques heures, le pays change radicalement de cap. Les électeurs ont vraiment su scinder leurs émotions. Séparer l'homme providentiel de la victoire militaire, de l'équipe politique qu'ils jugeaient nécessaire pour affronter la paix.
Exactement. En démocratie, il n'y a pas de gratitude politique éternelle. Il y a seulement le choix souverain de l'avenir.
Et c'est une sacrée leçon de maturité.
Absolument. Une mécanique qui exige une maturité collective impressionnante et qui laisse encore aujourd'hui matière à réflexion sur la manière dont les nations décident de tourner la page.